Chapitre 14. Le chemin de la louve. Fingin ne pouvait s'empêcher de penser à Félim et Erwan. Après eux, il était le troisième à avoir quitté Saïmina sans demander l'accord du conseil. Sans doute l'ordre n'avait-il jamais connu de période si trouble que celle-ci. Il y avait bien eu le départ de Samael et de Maol Morda par le passé, mais ceux-ci n'avaient rien à voir. Du moins, il l'espérait. Fingin ne voulait pas quitter le conseil définitivement. Bien au contraire. Il se souvenait encore des mots d'Hernan. Aileen disait que tu ferais un bon archidruide. Des paroles qu'on ne pouvait oublier facilement. Car oui, Fingin espérait malgré tout devenir un jour archidruide à son tour. Et pourtant, aujourd'hui, il avait quitté Saïmina sans prévenir ses frères. Il avait laissé un mot, très court, à l'attention d'Hernan. « Je suis parti faire ce que je dois. » Chaque nouveau pas en direction du sud l'enfonçait davantage dans un océan de doutes et de questionnements. Il ne parvenait à en être sûr, mais il espérait avoir bien fait. Il le souhaitait, simplement. Fingin imaginait que Félim avait dû ressentir la même chose le jour de son départ. La même angoisse, les mêmes scrupules. La Moïra fasse qu'il ne subisse pas le même sort. Mais combien faudrait-il de morts dans les rangs du conseil pour que celui-ci comprenne qu'Aléa était plus importante que tout? Le jeune grand druide se demandait comment il pouvait être si sûr de la probité d'Aléa. Il ne se souvenait plus bien du moment où il avait décidé de croire en elle. De croire au rôle qu'elle devait tenir. Pire encore, il n'était même pas sûr de savoir ce en quoi ce rôle consistait. La jeune fille était sans doute un mystère pour tout le monde. Mais la seule chose dont il était sûr aujourd'hui, c'est que Félim avait accepté de mourir pour elle et qu'Erwan, sans doute, avait fait le même serment. Félim, le plus juste des grands druides, et Erwan, son meilleur ami. Fingin n'avait pas besoin d'autres preuves. Comme le jour commençait à tomber et qu'il arrivait en vue d'un petit village, le jeune grand druide se demanda s'il pourrait y trouver refuge. Était-il risqué de dormir dans un village si près de Saïmina? Hernan avait-il envoyé des hommes à sa recherche? Quelque chose lui disait que non. Depuis son départ, il ne pouvait s'empêcher de penser à l'étrange conversation qu'il avait eue avec l'archidruide le soir de Lugnasad. Il se souvenait qu'il avait été fort étonné par les propos d'Hernan, qui semblait lui dire de fuir, de partir. À l'époque, il s'était dit que le vieil homme voulait simplement lui faire comprendre que s'il avait envie de retrouver Erwan, il pouvait bien sûr le faire. Mais aujourd'hui, après tout ce qui s'était dit pendant la tenue du conseil, Fingin se demandait si Hernan ne lui avait pas simplement suggéré de partir à son tour derrière Aléa. Tout cela était si confus, si mystérieux. Il fallait toujours traduire, interpréter les paroles de l'archidruide. Mais quelque chose lui disait qu'Hernan n'enverrait pas d'homme à sa poursuite, et il décida de faire confiance à ce pressentiment. Il se dirigea donc vers le petit village sans cacher son blanc manteau et son long bâton de chêne. L'air était doux et la nature musicale. Quelques papillons colorés dansaient de fleur en fleur au chant distant des grillons. La plaine était claire et sereine et Fingin se laissa bercer en oubliant les questions qui le hantaient depuis son départ. Il n'avait pas quitté Saïmina depuis longtemps, depuis sa mission avec Hernan auprès des Tuatan, et il se laissa envahir par un bonheur enfantin. Comme elle était belle, son île, dans l'harmonie de cette soirée d'été. Comme elle lui avait manqué. Tout était si calme, si silencieux. C'était comme si les arbres et leurs habitants ne savaient pas quel bouleversement ébranlait le monde autour d'eux. Un petit coin de paix, dans la verdure des plaines de Galassie. Il arriva au milieu du soir dans le petit hameau. Ce n'étaient que quelques maisons assemblées autour d'un grand puits, et plus loin, deux ou trois fermes perdues au milieu des champs. Il n'y avait qu'une auberge, et sans doute n'accueillait-elle pas beaucoup de voyageurs. Pourtant, Fingin remarqua sur le côté du bâtiment une roulotte colorée. Il supposa qu'une troupe d'acteurs cheminants avait trouvé refuge dans ce village, et il se réjouit à l'idée de rencontrer ceux que l'on appelait les enfants de la Moïra. Il pressa le pas. Et entra enfin dans l'auberge. Il n'y avait là qu'une dizaine de personnes. L'aubergiste, une serveuse, quelques clients dont les vêtements et le regard disaient qu'ils étaient du village, et en effet, deux cheminants, un jeune homme et une jeune femme, qui dînaient encore. Tous levèrent les yeux vers le druide. On avait beau être près de Saïmina, Fingin devina qu'il n'entrait pas souvent de ses frères dans ce petit village. Il essaya de sourire à tout le monde et, par sa démarche, d'inspirer la discrétion, puis il partit s'installer à une table, la plus proche des deux acteurs. La serveuse s'avança vers lui, mais l'aubergiste la rattrapa et lui demanda de le laisser faire. Sans doute voulait-il accueillir lui-même un visiteur si prestigieux. La serveuse retourna vers la cuisine, déçue.
« Bonjour, druide, et bienvenue. La Moira est généreuse ce soir. Voyez, après deux de ses enfants, c'est vous qu'elle mène ici. Que puis-je vous servir ?»
Fingin sourit poliment. Il réalisa alors que c'était la première fois qu'il entrait dans une auberge avec son habit de druide. Il n'avait jamais vu ce regard se poser sur lui, cette peur mêlée d'admiration. « Simplement un potage, s'il vous plaît. »«
Vous ne voulez rien boire avant cela ?»
s'étonna l'aubergiste. « Non, merci. Juste un potage, » insista Fingin. Il regarda l'homme s'éloigner vers la cuisine, puis se retourna vers les deux cheminants. Il devait être un peu plus jeune que lui. Quelque chose dans leur visage disait qu'ils étaient frères et sœurs, à n'en pas douter. La même finesse dans leurs traits, les mêmes yeux. Lui était un grand jeune homme aux cheveux roux, courts et frisés. Il était mince et élégant, ses sourcils froncés lui donnaient un air décidé, mais son sourire attendrissait son visage. Quant à elle, était la plus belle jeune femme que Fingin ait vue depuis fort longtemps. Elle était blonde, les cheveux longs et droits. Plus âgée qu'Aléa, elle avait pourtant son sourire innocent. Dans ses yeux se lisait la passion, dans ses mains la grâce. Son corps était celui d'une femme, fait de courbes et de hautes lignes. Ils portaient tous deux les vêtements bariolés des acteurs, des franges au bout des manches, un pantalon bouffant et sous leur veste colorée, une chemise blanche au long col. La jeune femme dut s'apercevoir que le druide les regardait et s'adressa à lui en souriant.
« Tu veux te joindre à nous ? »
proposa-t-elle.
« Nous n'avons pas encore fini notre repas. »
Les cheminants avaient la réputation de n'être pas timides et plutôt amènes. Cela ne faisait pas exception. L'actrice s'était adressée à Fingin comme s'il était son égal. Le druide acquiesça. Il était un peu troublé, mais il se garda bien de le montrer. Au fond, la spontanéité des cheminants lui plaisait et il voulait comprendre ce qui avait valu aux enfants de la Moira un surnom si honorifique.
« Je ne peux pas refuser la conversation. » Mais cette fille est si belle, j'ai peur de me perdre dans ses grands yeux. C'est ridicule, je suis un druide maintenant, je suis capable de contrôler mes émotions.
Avec plaisir, répondit-il, et il se leva pour les rejoindre.
Je suis Caitlin, et voici mon frère, Mel.
Que la Moira vous garde, mon nom est Fingin. Le jeune acteur tendit sa main au druide.
Bonsoir Fingin. « Que fais-tu par ici ? Je croyais que tout Saïmina était en branle-bas de combat. »«
C'est ce qu'on dit ?» demanda le grand druide. « Ce garçon est malicieux. Cela se voit dans son regard. Cela s'entend dans sa voix. Quand il parle, on dirait qu'il s'amuse. » L'acteur lui adressa un sourire entendu.
« Avec tout ce qui se passe dans le pays, j'espère que ce qu'on dit est vrai !» s'exclama-t-il.
Fingin sourit. Il sait sans doute qu'un druide ne parle jamais de ce qui se passe à l'intérieur des murs de Saïmina, mais il veut sûrement me tester. Ce qui se passe dans le pays est l'affaire de tout le monde, la vôtre tout autant que celle des habitants de l'île ou de mes frères à Saïmina. Le jeune acteur fit une moue moqueuse.
Tu n'es pas assez âgé, Fingin, pour parler déjà comme un vieux druide.
Et toi, tu es encore plus jeune pour taquiner un homme de Saïmina. Mais voilà une conversation qui me plaît. Fingin posa ses coudes sur la table et appuya son menton sur ses deux poings fermés. « Tu as rencontré tant de druides que cela ? » demanda-t-il.
« Mon oncle, le frère de notre mère, est grand druide au conseil, et il parle comme tu viens de le faire, et il ne donne jamais la réponse que l'on attend, et se débrouille toujours pour ne rien révéler tout en donnant l'impression d'en dire beaucoup. Cela nous amuse énormément, Caitlin et moi. mais je vois que vous apprenez la rhétorique forgène.
Qui est votre oncle ? S'enquit Fingin, intrigué.
Aidan Emar, mais je crois que vous l'appelez Kiaran.
Kiaran ? Ce sont les neveux de Kiaran ? De plus en plus intéressant.
Fingin ne put s'empêcher de sourire.
Si Kiaran est votre référence, je comprends que vous trouviez le langage des druides énigmatique.
Le jeune acteur acquiesça.
Vous n'êtes donc pas tous comme notre oncle ? Tant mieux.
Kiaran est un druide que je respecte énormément. À vrai dire, je me demande s'il n'est pas, de mes frères, celui pour lequel j'ai la plus grande admiration, confessa Fingin d'un air très sérieux. Et je ne dis pas cela parce que c'est votre oncle. Mais je croyais que les cheminants constituaient une grande famille, que toute la famille d'un cheminant était cheminante. Comment Kiaran a-t-il pu devenir druide ?
Mel regarda sa sœur. Elle inspira et prit la parole à son tour. Elle doit connaître l'histoire familiale mieux que son frère. Par la Moira, elle est vraiment belle. Et dans ses yeux brille la même intelligence.
Il était cheminant avant de rejoindre Saïmina. Il était cheminant, mais il n'était pas vraiment heureux parmi nous. En réalité, tout le monde voyait qu'il avait quelque chose de spécial, de très spécial, et qu'il avait besoin de rencontrer des gens qui pourraient l'aider, qui pourraient le comprendre. Nous n'en étions pas capables. Quand il a annoncé qu'il partait pour Saïmina, personne ne s'y est opposé. Sa place est là-bas, n'est-ce pas ?
C'est étrange. Je me posais justement la question hier.
Kiaran est très... singulier.
J'espère ne pas vous choquer en disant cela. Mais disons que son rapport à la Moira et son rapport à notre ordre est profond, sans doute plus profond que le nôtre d'ailleurs, mais d'une manière complètement différente. Instinctive et forte à la fois. On a l'impression qu'il est habité par des révélations soudaines et qu'il est perpétuellement en train de se questionner.
Mais je dois vous ennuyer.
Pas du tout, protesta Mel. Tu parles enfin avec le cœur.
C'est vrai, librement en tout cas. Et cela fait du bien. Il y a quelque chose chez ces cheminants, quelque chose qui me met en confiance. Ils ont l'air si libres.
En tout cas, reprit Fingin, voilà une drôle de coïncidence, n'est-ce pas ?
En effet, répondit Caitlin en souriant. Mais nous n'avons pas vu notre oncle depuis fort longtemps, et tu dois le connaître mieux que nous à présent.
L'aubergiste arriva avec un gros bol de potage qu'il posa devant le druide en s'inclinant. Il regarda les deux acteurs, prit les assiettes qu'ils avaient terminées, et repartit vers la cuisine.
Tout cela ne nous dit toujours pas ce que tu fais ici.
Reprit Mel avec malice.
Et si je leur disais la vérité ? Un druide ne doit-il pas toujours la dire ?
Je devrais peut-être la contourner, répondre sans répondre, mais je n'en ai pas envie. J'ai l'impression de leur devoir la vérité. Peut-être verront-ils alors que je les respecte. Mais ai-je besoin de cela ? Où sont mes repères ? Je suis seule pour la première fois depuis bien longtemps. Saïmina est derrière moi et je ne suis pas en mission pour le conseil. Je dois apprendre à me faire confiance à moi-même. Voilà, suivre mon instinct. La vérité ne peut être néfaste. Ou alors, cette vie ne mérite pas d'être vécue.
Je recherche la jeune fille que l'on nomme Aléa. Vous avez entendu parler d'elle ?
Les deux acteurs se regardèrent en silence. Sans doute ne s'étaient-ils pas attendus à autant de franchise.
« Tu la recherches pour la ramener au conseil ?»
demanda Caitlin.
« Non, je la recherche pour l'aider. Et pour retrouver mon meilleur ami, qui je crois est auprès d'elle. Mais c'est une longue histoire. »«
Les druides ont des meilleurs amis ?»
s'étonna Caitlin.
Fingin sourit de nouveau.
« Bien sûr. Et je suis tellement idiot que j'ai fait de lui mon magistèle.
Alors que fait-il avec cette fille, s'il est ton magistèle ?»
Le jeune druide resta silencieux un moment.
J'en ai sans doute trop dit. À présent, cela ne sert plus à rien de revenir en arrière. Mais je dois savoir qui ils sont vraiment, ce qu'ils ont dans le cœur, afin de ne pas regretter ma franchise. S'ils sont bons, comme je le crois, alors j'ai bien fait.
À votre avis ? Demanda finalement Fingin.
Il est amoureux d'elle ?
Demanda Caitlin en souriant.
Fingin acquiesça.
Amoureux du Samildanak ! S'exclama l'acteur en riant. Pauvre de lui, il risque d'avoir de la concurrence.
Ainsi, ils savent qu'Aléa est le Samildanak. Ils la connaissent. Combien sont-ils en Gaëlia à le savoir ou à le croire? Le conseil ne se rend sûrement pas compte de l'ampleur que tout cela a pris.
Je ne sais pas s'il a de la concurrence, mais Aléa a tellement d'ennemis qu'il est de toute façon en difficulté.
Que savez-vous d'elle?
Ce que les nôtres savent, répondit Mel.
Voilà que tu réponds comme un vieux druide, toi aussi, se moqua Fingin.
Ce sont les Sylves qui ont annoncé la venue d'Aléa, expliqua le jeune acteur. Ils l'ont dit aux cheminants qui passaient en Brocélia, et depuis, la rumeur a fait le tour de notre communauté. Ils ont dit qu'elle était Kaïliana. Nous ne savons pas vraiment si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle.
Nous non plus, avoua Fingin. À vrai dire, personne ne le sait.
Le conseil est d'accord avec ton choix ? Demanda Caitlin.
Ils posent tous les deux les bonnes questions. J'espère que ce ne sont pas des espions. Mais non, ce n'est pas possible. Peut-être pourrais-je en savoir plus sur eux avec le Saïman. Peut-être pourrais-je essayer d'entendre leurs pensées. C'est un exercice que je n'ai jamais fait, mais je peux essayer. Il faut simplement que je me concentre et que le Saïman pousse mes sens, qu'il les entraîne, les force à aller au-delà de leurs possibilités. Il faut que j'entende leurs pensées, que je les sente, que je les voie.
Fingin ? Appela Caitlin. Tu as entendu ma question ?
Le jeune druide sursauta. Il s'était laissé emporter par le Saïman et avait eu un moment d'absence.
Non, le conseil n'est pas au courant que je suis là. Mais je suis grand druide, comme votre oncle. Je n'ai pas vraiment besoin de leur accord, vous savez. Je suis là pour servir la Moïra.
Les deux acteurs ne dirent pas un mot de plus. Alors que Fingin tentait d'entendre leurs pensées avec le Saïman, ils semblaient eux-mêmes essayer de le comprendre, l'analyser, le juger. Le druide abandonna très vite ses tentatives. Il n'était pas très à l'aise d'user de son pouvoir ainsi, devant tout le monde, et à des fins fort indiscrètes en définitive. Il espérait simplement que les deux cheminants avaient le cœur juste. Comme le silence s'était installé, il commença à manger le potage que l'aubergiste lui avait apporté. C'était un mets des plus ordinaires, mais Fingin n'y faisait pas vraiment attention. Il essayait d'analyser tout ce qu'il venait de dire. Il se demandait où cela les avait menés. Que pouvait-il leur dire à présent ? Comment cette conversation pouvait-elle se finir ? Il n'avait pas envie, d'ailleurs, qu'elle se termine. Mel était un interlocuteur agréable, et Caitlin tout autant. Fingin aurait souhaité pouvoir leur proposer de l'accompagner, bien sûr. La route allait être longue, d'autant plus longue qu'il était seul et qu'il ne savait pas vraiment où chercher. Il aurait aimé trouver deux compagnons de route, et il avait tant de choses à apprendre sur la vie des cheminants. Mais il ne pouvait pas les emmener. Il ne savait pas ce que la route lui réservait, et de toute façon, ils avaient sûrement mieux à faire. Quand il eut fini de manger, il se leva enfin et salua les deux acteurs.
Ce fut vraiment un plaisir de parler avec vous.
Merci. Les deux cheminants sourirent, mais ne répondirent pas. Ils le regardaient et dans leurs yeux flottait une interrogation que Fingin ne parvenait pas à traduire. Il prit son bâton de chêne, partit vers l'aubergiste et le laissa l'emmener dans une chambre pour la nuit. Ils venaient de passer la chaîne de Gordraka sur leur droite et entreraient bientôt sur le territoire de l'Arcour. À l'ouest, la mer s'étendait à perte de vue, émaillée de reflets éblouissants. Il n'y avait pas un seul nuage dans le ciel, et cela offrait à l'eau une couleur superbe. La région était déserte. Peu de personnes, sans doute, voulaient rejoindre Arcour, et peu le quittaient. La route avait disparu, par manque de fréquentation, il n'y avait plus qu'un petit chemin entouré de terre sèche, qui avançait à travers les bosses verts et rouges de la tourbière. Mjoln était en tête sur son poney, Alragan, et Aléa et Faith discutaient encore en retrait.
« Tiens, voilà le mont Tombe, au loin. Il fait si beau qu'on peut le voir d'ici, regarde. »
Aléa arrêta son cheval et tourna la tête pour voir ce que la barde lui montrait.
« De l'autre côté de l'eau, tu vois ce rocher, là ? Ça y est, je vois,
s'écria Aléa en pointant le bâton de chêne de Félim sur l'horizon.
« C'est le mont Tombe. Nous sommes encore très loin, mais nous pouvons le voir. »
« Et pourquoi n'irions-nous pas par la mer ?» proposa la jeune fille. « Il suffirait d'aller tout droit en partant d'ici. »
« L'estuaire est trop dangereux, Aléa. Aucun marin ne s'y aventure. Il y a des rochers partout, certains juste en dessous de la surface de l'eau qui perce la coque des navires. Mais quand nous serons au sud de Ria, plus à l'ouest, nous pourrons en effet y aller par la mer, si Mjol le veut bien. »
Le nain ne répondit pas. Il n'avait peut-être pas entendu.
« Il m'a parlé de votre petite sortie d'hier soir, » reprit Face. « Il m'a dit que...
qu'une louve nous suivait. C'est vrai ?»
Aléa sourit. « Elle s'appelle Imala. »«
Je vois. » »«
Elle nous suit, en effet. Mais rassure-toi, elle est amicale. En réalité, c'est moi qu'elle suit. Parce que je l'y ai invitée. »«
Tu parviens à lui parler ?»
Aléa se contenta d'acquiescer.
« Je n'ai jamais réussi à approcher une louve, » dit Face. « Tu as une chance extraordinaire, tu sais. En général, les loups se cachent. »«
Je sais, mais Imala n'est pas une louve comme les autres. »«
Et tu n'es pas une fille comme les autres non plus, » répliqua la barde. « Vous étiez donc faite pour vous rencontrer, n'est-ce pas ?»«
Sans doute, mais je dois lui dire de partir cette fois. »
La barde s'étonna.
« De partir ?»« J'aimerais qu'elle aille chercher Erwan et Galiad, » expliqua la jeune fille.
« Tu sais où ils sont ?»«
Pas tout à fait, mais je crois que la louve le sait, inconsciemment. »«
Je ne comprends rien à ce que tu me racontes, »
avoua Face.
« C'est difficile à expliquer. »«
Tu sais ce que c'est que le monde de Jar ?» demanda Aléa à voix basse pour que Mjol n'entende pas cette question.
« Oui. » Je ne peux pas dire que je le connais, mais je sais ce que c'est. J'en ai entendu parler, je connais plusieurs contes à son sujet.
Je m'y rends chaque soir, Face.
La barde tourna la tête vers la jeune fille. Elle eut presque envie de rire. C'était un rire nerveux. Chaque jour, Aléa lui annonçait une nouvelle histoire invraisemblable, et pourtant elle savait que tout cela était vrai. Elle se demandait jusqu'où cela irait. Et surtout, elle se demandait comment Aléa parvenait à supporter ce que la Moïra lui infligeait.
« Que sais-tu du monde de Jar, précisément ?»
reprit Aléa, malgré le trouble qu'elle pouvait lire dans les yeux de son amie.
« Les légendes racontent que notre monde est fait de plusieurs autres mondes. Il y a le monde du Cid, où le temps n'existe pas. Le monde des morts, où errent les âmes des défunts. Notre monde est le monde de Jar. Il serait le monde des rêves, d'après certaines légendes, celui où se passent nos rêves. Et la Moïra, dit-on, n'agirait pas sur ce monde-là.
C'est-à-dire ? Demanda Aléa.
Je ne sais pas trop. Tu dois le savoir mieux que moi si tu y vas tous les soirs. Cela doit vouloir dire que, dans le monde de Jar, il n'y a pas de destin, non ? Rien n'est prévu ? Tout est hasard ?
Je ne sais pas. C'est plutôt à toi de me le dire.
Félim aurait sans doute pu m'expliquer. Je ne sais pas vraiment ce que c'est. Je sais que je suis capable de m'y rendre. Je sais à peu près ce que je peux y faire. Mais je ne suis pas sûre de comprendre ce que c'est, confessa la jeune fille.
Les pas de leurs chevaux ralentissaient, et elles avaient de plus en plus de retard sur Mjoln. Mais cela ne dérangeait pas Aléa. Elle voulait que cette conversation reste entre elle et Face, parce qu'elle savait que cela aurait fait peur au nain. Il était assez inquiet comme ça, et elle culpabilisait.
« Je ne crois pas que cela soit vraiment le monde des rêves, » dit-elle finalement. « Sinon, j'y croiserais beaucoup plus de gens. »« Non, c'est plutôt le monde de l'esprit, ou de la volonté peut-être. »« Dans le monde de Jar, on se déplace par la pensée, on agit par la pensée, par l'envie. »
Elle marqua une pause. Face l'écoutait attentivement.
« C'est là que j'ai battu le chevalier Erilim, » ajouta-t-elle. « Et c'est là que j'ai perdu Galiad et Erwan. Mais hier, je les ai vus. La louve m'a amenée jusqu'à eux. »«
Elle est aussi dans le monde de Jar ?» s'étonna la barde.
« Oui, et c'est pour cela que je t'en parle. Tu vois, il y a quelque chose de plus dans tout cela.
Si seulement Félim était là pour m'aider à comprendre.
Je ne suis pas sûre qu'il pourrait le faire.
Tu as raison.
Je ne sais pas si je devrais te le dire.
Mais j'ai aussi vu Félim.
Cette fois-ci, Faye s'arrêta son cheval.
Pardon ?
Il est venu me voir un bref instant dans le monde de Jar.
Il est venu du monde des morts.
Tous les mondes communiquent. Il y a une porte quelque part. Et c'est là que sont Erwan et Galiad.
Tu n'as jamais entendu parler de cette porte ?
Non, murmura Faïs, hébété.
Une porte qui relierait tous les mondes. Le Cid, la Gaëlia, Jar, le monde des morts.
Si c'est une porte qui mène au Cid, alors c'est sans doute par là que sont venus les Tuatan. Cela au moins nous donne une indication.
C'est très juste. Il faudra que nous découvrions ça. Mais pour l'instant, je vais envoyer la louve. Quelque chose me dit qu'elle trouvera sans moi.
Nous n'avons pas de temps à perdre. Nous devons avant tout aller au Mont-Tombe.
Faye s'acquiesça. Elle avait eu assez de révélations pour la journée. Ce que la jeune fille lui confiait était parfois plus incroyable encore que la plupart des contes qu'elle racontait elle-même quand elle exerçait encore son métier de barde. Les Sylves avaient sans doute raison. Il devait y avoir des réponses dans les légendes. Mais lesquelles ?
Qu'est-ce que c'est que ce bâtiment ?
S'exclama soudain Mjoln, le doigt pointé vers une colline au nord. Faïs et Aléa s'approchèrent et arrêtèrent leurs chevaux à côté du sien. Une structure basse, tout en longueur, s'étendait devant eux, sa façade percée de quelques rares petites fenêtres, faites de pierres blanches et polies sous un toit d'ardoise, et sur la cime du toit, une haute croix.
« C'est un monastère, » expliqua Faïs avec un frisson dans la voix.
« C'est-à-dire ?» demanda Aléa.
C'est la résidence d'une congrégation de moines chrétiens. Nous sommes arrivés en Harcourt. Dans cette région, il y a de nombreuses églises et des monastères. Nous sommes au sud de l'Harcourt, plus précisément. Ici, il n'y a pas d'auberge. Les voyageurs passent la nuit chez les moines.
Sont-ils à la solde du comte d'Harcourt et de Thomas Aeditus, sans qui Aléa ?
Plus ou moins. Mais ils sont tellement isolés que la plupart restent indépendants et ne s'occupent pas tellement des affaires politiques de la cour.
Veux-tu dire que nous pourrions y aller sans risque ?
Je ne suis pas sûre. Mais lors de mon voyage ici, l'an dernier, les moines se sont montrés très discrets. Ils m'ont accueilli, et si le confort de leur chambre est bien pauvre à côté de celui d'une auberge galacienne, au moins ne m'ont-ils pas ennuyé. Dans l'un des monastères, j'ai même été invitée à jouer de la harpe.
« Mais les chrétiens ont horreur des druides et des bardes !»
s'étonna Mjoln. Faïs haussa les épaules.
« Les moines ne semblent pas trop s'en soucier. J'ai eu bien des mauvaises surprises en Harcourt. Les soldats de la flamme, les prêtres, et même certains simples fidèles se sont montrés fort agressifs à mon égard, mais je n'ai jamais eu de problème avec les moines. »
Cela dit, je n'étais qu'une simple barde. Aujourd'hui, les choses sont peut-être différentes.
Les tensions entre l'Harcourt et la Galatie n'ont jamais été aussi fortes, Aléa, et nous ne savons pas si les gens ont entendu parler de toi ici.
La jeune fille soupira. Elle se posait précisément cette question.
S'ils savent que tu es le Samil d'Anak, tu seras encore moins bien reçu qu'un druide. Nous entrons dans l'inconnu. Peut-être n'ont-ils jamais entendu parler de toi, auquel cas nous pouvons passer pour de simples voyageurs, mais peut-être es-tu recherché dans tout le comté, comme en Galatie.
Aléa hésita un instant. Elle regarda longuement le monastère au loin, puis sans le quitter des yeux, elle dit lentement
« Nous irons quand même dans ce monastère. »
Bjorn soupira.
Je pense que cela ne sert plus à rien de te dire que je ne trouve pas cela raisonnable. Ça, non, plus à rien, n'est-ce pas ?
Je veux voir ce monastère. Je veux rencontrer ces moines. Je veux les entendre, savoir qui est leur dieu.
Kada, je croyais que nous étions pressés d'arriver au Mont-Tombe,
répliqua le nain.
J'ai peut-être des choses à apprendre ici aussi. Cela m'intrigue. Et puis, comme cela nous seront fixés, nous saurons si je suis recherchée, oui ou non.
« C'est pas le moyen le plus discret pour le découvrir, »
répondit Mjoln.
Mais après tout, je suis pas contre l'idée de passer une nuit dans un bon lit.
Nous n'irons pas ce soir, répliqua Aléa. Nous irons demain. Nous avons assez marché comme cela aujourd'hui.
Ahem. Tant mieux. Là, un bon dîner. Je vais vous préparer un bon dîner.
Le roi Éogan mort de Galassie se leva. Le front ruisselant de sueur, il partit ouvrir la grande fenêtre de sa suite dans le palais de Providence. Il n'y avait pas un souffle de vent pour que la nuit puisse balayer la chaleur du jour. Éogan ne se souvenait pas d'avoir vécu un été aussi chaud que celui-là. Des torches brûlaient dans les jardins immenses du château. Plusieurs fois dans la nuit, des valets venaient les changer pour que jamais le parc ne tombe dans l'obscurité. Le haut roi entendit sa femme soupirer dans le grand lit derrière lui. Il se retourna et vit qu'elle s'était redressée pour s'adosser à la tête de lit. Elle était sublime. Petite beauté cachée des terres galaciennes. Elle n'était pas née noble, et l'on avait persiflé jusqu'en Bisagne lorsqu'il avait annoncé qu'il allait épouser la fille d'un forgeron. Mais quand il présenta sa future femme aux nobles de Sarre, de Bisagne et de sa propre cour, plus personne n'osa médire tant elle était belle et décidée, tant son regard était empli de noblesse et son discours hardi. À la mort de son père, elle avait quitté son petit village, à peine adolescente. Elle avait été recueillie chez sa tante, à Providence, puis elle avait étudié auprès d'un druide pour devenir barde. Mais Éogan l'avait rencontrée avant qu'elle ne passe l'habit bleu, et bien qu'elle fût initiée, elle ne pratiqua jamais son art que dans les salons, pour les convives du roi et pour le roi lui-même. « Comment est la nuit ?» demanda-t-elle en souriant au roi.
« Comme vous, mon charme, étrange et belle. »
Amine se leva à son tour. Elle était nue, mais elle marcha à travers la pièce sans la moindre pudeur. Et elle n'avait pas à en avoir. Son corps était parfait. Ses hanches fines, ses jambes longues, son ventre lisse comme la peau d'un nouveau-né, sa poitrine sublime, comme dessinée par la main inspirée des plus grands maîtres bisagnais, et son visage, si jeune et si sûr à la fois. « Comme il fait chaud !» exhala-t-elle.
« Voulez-vous que je mande un bain froid ?» s'enquit le roi.
« Attendez, je veux passer cet instant près de vous, à regarder ce ciel. »«
Les valets pourraient vous voir depuis le parc, »
argua-t-il. « Et alors, qu'ils me voient comme je suis, leur reine n'a rien à cacher. Cela vous gêne ?»«
J'ai peur qu'ils tombent tous amoureux de vous, s'ils vous voient dans cette tenue. »«
Ne le sont-ils pas déjà ?» plaisantait-elle. Amine vint se placer derrière son époux et l'enlaça en passant ses deux bras par-dessus les épaules musclées du roi. Se hissant sur la pointe des pieds, elle posa un baiser délicat dans le cou d'Éogan, puis laissa retomber son menton sur la nuque de son mari.
« Aucun druide n'est venu pour Lugnasad, » chuchota-t-elle.
« Ils ont tant de choses à régler en ce moment. Il m'avait prévenu. »
« Qu'on soit druide ou paysan, on ne rate pas la fête du roi. S'ils ne pouvaient tous venir, ils auraient pu au moins envoyer un représentant. »
Éogan se retourna lentement pour faire face à son épouse. Il prit son doux visage entre ses deux larges mains.
« Je ne comprends pas pourquoi cela vous a tant choqué, ma tendre. »
Amine laissa glisser ses mains le long des bras du roi, lentement, comme une caresse.
« Je connais bien les druides. Le conseil est là, disent-ils, pour aider le monde à marcher dans le chemin de la Moïra. Mais la vérité, c'est qu'une seule chose les intéresse, le pouvoir. Et chaque fois qu'ils peuvent montrer, d'une façon ou d'une autre, que vous leur êtes inférieur, ils le font, comme s'ils voulaient rappeler aux habitants de la Gaëlia que ce sont eux, les véritables rois du pays. Vous ne devez pas tolérer cela, Éogan. Vous êtes le haut roi de Gaëlia, et vos sujets doivent vous reconnaître comme tel. Il n'y a rien qui soit plus haut que vous sur le chemin de la Moïra. Vous êtes le dirigeant suprême du pays.
« J'ai besoin des druides plus que de quiconque !» rétorqua le roi. « Sans eux, je serai sans doute à la merci de l'Arcour, ou maintenant des Touatanes. Mon armée tout entière ne saurait les égaler. Je ne puis que me plier devant leur puissance. »
vous parlez de force de frappe. Mais je vous parle, moi, de pouvoir politique.
De nos jours, le second résulte du premier.
Pas quand on est le haut roi de Gaëlia. Votre place vous donne une force que votre armée n'a pas. Vous devriez en user davantage, mon amour. Et Hogan sourit. La Moïra ne lui avait pas seulement offert la plus belle femme de l'île, elle lui avait aussi apporté une fine politicienne. Il l'embrassa longuement et retourna se coucher sur leur grand lit de merisier rouge.
« Que voudriez-vous que je fasse ? » demanda-t-il en s'étirant.
« Vous auriez dû exiger la présence de l'un des grands druides et lui donner un rôle dans la cérémonie. Un rôle honorifique, certes, mais un rôle qui aurait clairement montré à vos sujets que vous étiez au-dessus du conseil. Mais ce qui est fait, est fait. Toutefois, les druides continuent de vous manquer de respect aujourd'hui. » Le roi se redressa sur ses coudes et fronça les sourcils.
« Comment cela ?»
Amine vut qu'elle avait réussi son effet. Elle avança lentement vers le lit, puis elle vint s'asseoir près de l'homme qu'elle avait épousé. Les manites des Tuatan. Savez-vous que les druides ont demandé les manites des Tuatan en échange de l'accord de paix qu'ils vous ont forcé à signer? Et Hogan eut un pincement de lèvres. Ils vous ont obligé à céder la terre brune aux envahisseurs, et en échange de ce bien qui ne leur appartenait pas, ils vont récupérer les 4 objets les plus précieux de l'île. Le haut roi se redressa totalement, fulminant.
« Comment pouvez-vous être au courant de cela, alors que je ne le suis pas moi-même »
s'exclama-t-il. « Parce que je suis barde, mon roi, et parce que j'ai le temps, moi, d'écouter ce qui se dit sur vos terres. C'est pour cela que vous m'avez épousé. » Et Hogan se leva sous le regard satisfait de son épouse et partit s'habiller.
« Je vais réunir mes conseillers tout de suite. Je veux en savoir plus à ce sujet. Il est hors de question que les druides me manipulent ainsi. »
Le haut roi fit un dernier baiser à sa femme, puis quitta la pièce rapidement. Amine sourit. Cela ne faisait que commencer. Aléa soupira. Seule au milieu de la nuit, assise loin du campement, les genoux ramenés sur sa poitrine, les bras enlacés autour de ses jambes, elle savait que la trêve était finie. Elle balançait lentement le bâton de Félim dans sa main droite. Depuis qu'elle avait quitté la forêt de Brosselia, sa vie avait retrouvé un rythme presque normal. Elle s'était contentée de voyager, de parler avec ses 2 compagnons et de se ressourcer. Les Érylim n'étaient plus à ses trousses. Les druides avaient sans doute perdu sa trace. Le vent de panique qui l'avait porté jusqu'à l'arbre de vie avait cessé de souffler, et elle avait passé quelques jours reposant sur le dos de sa jument. Mais ce soir, elle l'avait compris dès qu'elle avait vu le monastère. Ce soir était son dernier soir de repos. Demain, sa vie pleine de dangers reprendrait. Elle était le Samil Danak. Elle ne pouvait y échapper. Devant elle s'étendait à perte de vue le territoire d'Harcourt, où elle le savait, devait se jouer une grande partie de son destin. Ici, elle n'aurait qu'ennemis. Sa route serait parsemée d'obstacles, et certains pourraient être fatals. Comme chaque fois qu'elle sentait venir les complications de son itinéraire, elle se demandait si elle avait bien fait d'emmener Faith et Mjoln jusque-là. De quel droit les poussait-elle vers ces combats certains? Les étoiles faisaient un éventail de paillettes au-dessus des collines basses d'Harcourt. À l'ouest, on entendait la mer et le souffle d'un vent léger qui faisait trembler les herbes au sommet des coteaux. Quelques mouettes égarées marchaient le long des cimes. C'était une nuit sans nuages, et le ciel était vaste au-dessus d'Aléa. Si vaste. La Gaëlia est une si petite île dans ce grand univers, pensa-t-elle. Qu'est-ce qu'un Samil Danak devant l'éternité? Il y a eu des milliers d'histoires avant moi, et il y en aura d'autres après. Ce que j'ai vu dans l'arbre de vie, la fin des sylves, la fin des druides après ma mort, tout cela n'est rien. Ce n'est sans doute qu'un symbole, aucune histoire. Je sais que ce n'est rien. Il faut juste que je comprenne. Soudain, elle entendit un bruit, à quelques pas, qu'elle reconnut tout de suite. La louve. Aléa sourit.
Perdue dans ses pensées, elle avait presque oublié son rendez-vous nocturne. Et Imala avait tardé à venir. La jeune fille vit tout de suite que quelque chose avait changé. Imala n'avait pas le même regard, pas la même démarche. Qu'y a-t-il ? La louve s'approcha lentement, mais sans peur cette fois. Ses yeux jaunes brillaient et son poil paraissait gris. Elle s'arrêta à quelques pas d'Aléa et se dressa sur ses deux pattes avant. « Tu es bien fière aujourd'hui. » La louve fit deux pas en arrière, sans perdre la jeune fille du regard. Aléa se leva lentement. Imala recula encore davantage. « Tu veux que je te suive ? Tu veux me montrer quelque chose ?» L'animal fit volte-face et partit au trot vers le sud. Aléa hésita un instant, puis elle se décida à la suivre. Elle dut courir elle aussi pour ne pas perdre la louve de vue. Il faisait nuit et elle devait en même temps faire attention aux pièges que la nature réservait aux marcheurs imprudents, si loin du chemin. La course dura assez longtemps à travers les collines et bientôt, Aléa ne vit plus la silhouette balancée de la louve. Elle ralentit sa progression pour reprendre son souffle et inspecta l'horizon de droite et de gauche pour retrouver l'animal. Rien. Aléa s'arrêta complètement. Elle était loin du campement à présent. D'ici, on ne voyait même plus l'ombre longue du monastère. Un frisson lui parcourut l'échine. Sans doute le vent nocturne. Lentement, elle se remit à marcher. Elle était au pied d'une petite colline et se dit qu'en montant au sommet, elle aurait plus de chances de voir l'animal. Cela l'entraînait encore plus loin vers le sud, mais au moins, elle n'aurait pas couru pour rien. Elle accéléra le pas, et quand elle fut en haut de la colline, elle vit aussitôt ce qu'Imala avait voulu lui montrer. Plus bas, dans la petite vallée, la louve blanche jouait avec un grand loup gris. Par moments, on aurait pu croire qu'il se battait, mais ce n'était qu'un jeu, Aléa en était sûre. Elle s'accroupit et regarda en souriant les deux animaux qui couraient en rond à côté d'une petite rivière. « Ainsi, tu as trouvé un autre loup. Toi aussi, tu veux me montrer tes amis. » Soudain, Imala cessa de jouer avec le loup gris et courut vers le sommet de la colline, droit sur Aléa. La jeune fille se demanda un instant si elle ne devrait pas se relever, tant la louve arrivait vite, mais elle essaya de ne pas prendre peur et resta accroupie. Imala ralentit sa course à quelques pas d'Aléa et finit son chemin en marchant. Elle vint tout près de la jeune fille, avec une assurance nouvelle. Aléa lui tendit la main et Imala se mit à lui lécher les doigts affectueusement. La jeune fille avança lentement tout en restant près du sol et quand elle fut assez près, elle fit passer son bras droit par-dessus le dos de la louve pour lui caresser le ventre. Son cœur palpitait. Jamais elle n'avait été si proche. Mais Imala se laissait faire. Elle remuait la queue, la langue pendante, et jetait par moments des regards emplis de fierté à son compagnon qui, inquiet, épiait la scène depuis le bas de la colline. « Bien, Imala, je suis heureuse pour toi. Viens, ma sœur, viens. Il est très beau, ton compagnon, et tu pourras lui apprendre à ne pas avoir peur de moi. » Enfin, la louve s'assit devant Aléa. Sa queue battante frottait l'herbe de la colline. Le museau relevé, elle avait l'allure digne et le regard brûlant. Elle était heureuse. Cela se voyait dans chacun de ses gestes. Aléa continua de la caresser. C'est bien que tu ne sois plus seule, Imala. C'est bien, car à présent j'ai quelque chose à te demander. Nous devons nous séparer, ma louve. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. J'espère que tu vas comprendre. Je ne sais pas si tu m'entends vraiment. Tout en caressant la louve d'une main, de l'autre, elle chercha dans son sac le bandeau d'étoffe bleue qui appartenait à Galiade et qu'elle avait gardé avec elle. Elle approcha le bandeau du museau de la louve. « Tiens, sens ce bandeau. Il appartient à Galiade. Je veux que tu le retrouves. Tu l'as vu l'autre nuit. Tu m'as mené à lui. Tu sais qui il est. Tu reconnais son odeur, n'est-ce pas ? Imala, je veux que tu retrouves Galiade et son fils. » Erwan, je veux que tu les trouves et que tu les guides ici, vers le mont Tombe, là où la mer s'engouffre dans les terres. J'ai besoin que tu fasses cela pour moi, ma sœur. Tu comprends ? Imala se mit à gémir. Elle n'avait senti l'étoffe qu'une fois, mais Aléa était sûre qu'elle avait compris le message. La louve trépignait. La jeune fille attira l'animal contre elle et l'embrassa des deux mains. « Merci, ma louve, et bonne chance. Mais avant de partir, veux-tu bien me laisser passer l'étoffe à ton cou ? N'aie pas peur, Imala. Je veux simplement que Galliad sache que c'est moi qui t'envoie. » Quand Aléa approcha le bandeau pour le passer autour du cou de la louve, celle-ci eut un mouvement de recul et poussa un petit grognement. La jeune fille s'y attendait et baissa les bras un instant. Elle s'approcha de nouveau lentement de la louve, mais celle-ci recula de plus belle. Aléa essaya de l'amadouer avec de douces paroles, mais Imala ne voulait rien entendre et continua de s'éloigner. Aléa dut abandonner, et quand elle vit que la louve était assez loin, elle se releva. Elle fixa Imala du regard et lui sourit simplement. « Va !» pensa-t-elle, et l'animal courut vers le bas de la vallée rejoindre le grand loup gris. Aléa serra les poings. Elle espérait que la louve avait compris, et surtout, si elle avait compris, qu'elle serait en mesure d'accomplir ce qu'elle lui demandait. Elle espérait que sa tentative de lui passer le bandeau autour du cou ne l'avait pas trop effrayée. Imala ne voulait pas porter d'étoffe, comme si elle voulait clairement signifier qu'elle n'appartenait pas à Aléa, qu'elle n'appartenait à aucun vertical et que jamais elle ne serait complètement apprivoisée. Ainsi étaient les loups, et Aléa se dit que c'était peut-être mieux comme ça. Samael n'était plus escorté que par une petite quinzaine de soldats de la flamme. Le combat livré au Tuatan avait coûté la vie à la plupart des hommes de la garnison, et l'évêque devinait que le capitaine gardait depuis lors une rancune certaine envers lui. Mais le militaire était loin de s'imaginer ce que Samael avait gagné dans l'affaire. L'épée de Nuadu n'était pas sortie de son étui depuis que Samael était parvenu à la dérober au Tuatan. Il la gardait précieusement dans son coffre et n'avait pas encore pris la liberté de la regarder de plus près. C'était comme s'il en avait peur. Les druides avaient tellement recherché cet artefact de légende que l'accusateur lui-même n'arrivait pas à croire qu'il était là, en sa possession, et qu'il était tombé dessus par hasard. Cela le médusait et l'amusait à la fois. Si la Moïra avait réellement existé, aimait-il penser, aurait-elle permis qu'il mette si facilement la main dessus ? L'escorte arrivait maintenant en vue de la forêt de Ténian, et même si Méricourt n'était plus très loin, la menace d'une attaque des Tuatan était toujours présente. Il restait encore 2 ou 3 jours à voyager vers le sud avant d'arriver à la capitale de Terre Brune, où Samael pourrait rencontrer le comte afin de lui proposer l'aide de l'Harcourt. L'évêque ne voulait plus perdre de temps. Malgré la fatigue des chevaux et des hommes, il n'ordonnait le repos que tard dans la nuit et exigeait que l'on reparte tôt le matin. Toutefois, les soldats de la flamme ne se plaignaient pas. Leur entraînement était parmi les plus durs de toutes les armées de l'île, et ils étaient habitués à des rythmes peut-être encore plus difficiles que celui-ci. Mais les chevaux, eux, perdaient chaque jour un peu de leur endurance. Ils avaient besoin de plus en plus de soins, et certains commençaient à boiter. Ce soir-là, Samael attendit que la nuit fût complète pour ordonner qu'on monte le campement. Le régiment s'arrêta à quelques lieues d'un petit groupe de fermes et l'on installa très vite le quartier. Un carré de terre pour le feu, un coin d'herbe pour les chevaux, une tente pour l'évêque, quelques tables, des troncs pour les bancs et des postes de garde. Quand tout fut prêt, Samael appela le capitaine.
« Monseigneur !»
s'inclina l'officier en arrivant.
« Je veux que vous alliez avec 2 de vos hommes vers ces quelques fermes. Emmenez les 4 chevaux les plus fatigués et voyez si vous ne pouvez les faire soigner par un maréchal ferrant, ou mieux, si vous ne pouvez en trouver 4 autres à la place. » « Je veux que vous y alliez vous-même, avec vos hommes, parce que je veux aussi que vous essayiez de trouver quelque information sur la situation. Où en sont les Tuatan et où en est le comte Mérian de Mor ?»«
N'est-il pas un peu tard pour espérer rencontrer âmes qui vivent dans un si petit village ?» s'étonna le guerrier.
« S'il n'en est un qui soit debout, réveillez-les et dites-leur que vous êtes en mission pour le comte. Vous êtes un militaire, ces fermiers vous respecteront comme tels. »
« Bien, monseigneur !»
Le capitaine fit volte-face et s'exécuta aussitôt, emmenant avec lui 2 hommes et les 4 chevaux les plus fatigués de l'unité. Quand il revint, bien plus tard dans la nuit, les soldats avaient mangé et la plupart dormaient déjà. Deux seulement étaient encore debout et surveillaient le camp. L'évêque, lui, lisait dans sa tente à la lumière d'une bougie. Samaël n'était pas fatigué. Après ses longues journées, il lui suffisait d'animer le Saïman dans ses veines et l'épuisement disparaissait aussitôt. La chose était devenue une drogue pour lui. Chaque soir, il continuait de lire longtemps après que les derniers soldats se soient endormis et il ne se couchait qu'après le deuxième ou troisième tour de garde. Aux hommes d'Harcourt, il laissait croire qu'il passait ses heures à prier, mais dans l'intimité de sa tente, il lisait en vérité tous les livres que sa vie de druide ne lui avait pas permis de découvrir plus tôt. Il s'extasiait devant ses puits de savoir, ses merveilles cachées, devant ses voyages, ses histoires, ses pensées. Le capitaine se signala à l'entrée de la tente.
« Monseigneur !»
Samaël replia devant lui le livre du langage ancien qu'il était en train de consulter, noua la mince lanière de cuir qui le tenait fermée et se leva pour accueillir le soldat.
« Entrez, capitaine, et installez-vous là, devant ma petite table. »
Chaque soir, les soldats disposaient la tente de l'évêque avec précaution. Ils savaient précisément ce que le pontife attendait. Une petite table, deux chandeliers, sa malle emplie de livres et couverte de velours rouge qui lui servait aussi de banc. Deux petits sièges de bois, une bassine de cuivre où il pouvait se laver, et un lit que l'on confectionnait avec de la paille, de la toile de jute, des draps et des couvertures. C'était le seul luxe que l'évêque pouvait se permettre quand il était ainsi en voyage. Mais il fallait que tout soit installé quand il entrait dans la tente, chaque chose à sa place, et tous les soirs dans la même disposition.
« J'ai pu échanger nos quatre chevaux contre quatre autres, » dit le capitaine en s'asseyant.
Il avait le ton grave, les sourcils froncés, et Samaël vit que quelque chose n'allait pas.
« De bons chevaux ?»
s'enquit Samaël que le rythme de leur voyage inquiétait plus que tout.
« Leur nature est très bonne, et leur santé bien meilleure que celle dans laquelle nous avons laissé les nôtres. Ils n'ont bien sûr pas reçu l'entraînement militaire soutenu des dresseurs d'Harcourt, mais je pense que cela sera amplement suffisant. »«
Bien. Avez-vous pu trouver des informations dignes de nous intéresser ?»
demanda l'évêque, devinant que ces nouvelles étaient la cause de la gravité de son interlocuteur.
« Oui, monseigneur, et je crois qu'elles sont inopportunes pour le dessein que vous vous êtes fixé. »
Samaël s'impatienta.
« Alors ?»
Merian de Mort n'est plus à Méricourt. Il a quitté la capitale et est parti avec le plus gros de son armée pour attaquer les Touatanes. Les barbares se sont installés dans tout le nord de Terre Brune, comme le leur a permis le haut roi, et Mériand espère les bouter hors de ces terres sans l'aide de quiconque. Il se dirige à présent vers Philidène.
Samaël frappa du poing sur la table.
L'imbécile! Seul il n'a aucune chance! Son armée est ridicule face aux Touatanes! Nous devons l'intercepter avant qu'il ne soit trop tard!
Le capitaine resta silencieux. Il avait bien sûr pensé la même chose. Il ne pouvait d'aucune façon rassurer l'évêque natalien.
Nous ne pouvons nous permettre de perdre Merian de Mort,
continua Samaël, mais c'était à lui-même qu'il parlait à présent.
Et son armée nous serait aussi fort utile. Nous devons empêcher cela.
L'évêque se leva, passa derrière sa malle et l'ouvrit. Il plongea les mains à l'intérieur et sortit l'épée de Nuadu, soigneusement enveloppée dans une longue étoffe brune.
« Capitaine, je vais partir seul dès ce soir. Vos hommes me ralentissent et je n'aurai besoin d'aucune protection. »«
Bon, monseigneur, » balbutia le militaire hébété. « Vous n'êtes pas sérieux. »
Samaël attacha l'épée à sa ceinture sans la sortir de son étoffe et prépara un grand sac qu'il emplit de vivres et de vêtements.
« Je suis très sérieux, au contraire. Je dois intercepter Merian de Mort au plus vite. Je ne peux plus perdre une minute. » Seul, je ne cours aucun danger. Dieu me protège. Préparez le meilleur de vos chevaux. Demain, vous retournerez en Harcourt, où vous informerez Thomas Aeditus et le comte Alroeg de la situation. Je me charge de ramener Mort à la raison et de le faire venir en Harcourt, afin que nous puissions le rallier à notre cause.
Le capitaine ne sut que dire. Il ne pouvait protester. Pourtant, il savait qu'à son retour au comté d'Harcourt, Thomas Aeditus lui reprocherait sans doute sévèrement de n'avoir pas continué à escorter l'évêque natalien. Mais celui-ci était bien décidé, et le soldat ne pouvait désobéir. De plus,
Maintenant qu'il avait vu comment Natalien était capable de se comporter en plein combat, il se disait que ce vieux fou était bien capable de parvenir à ses fins. L'officier acquiesça humblement et sortit de la tente sans ajouter un seul mot. Il attendit le matin pour annoncer la nouvelle à ses hommes. Samael était déjà loin.
Qui êtes-vous ?
Kiaran. Ou en tout cas, je suis l'image de Kiaran dans le monde de Jar.
Ce n'est pas le visage que je lui connais, mais c'est bien sa voix. Et ses yeux. Et son esprit. Je reconnais son esprit. Mais pourquoi cette image ? Je ne vous reconnais pas, druide. Pourtant, je vous ai vu à Saïmina. Ici, vous êtes plus jeune. Et ces vêtements, ce n'est pas la tenue d'un druide.
J'étais ainsi quand j'étais à peine plus âgée que toi, Aléa.
Vous étiez cheminant ?
Il acquiesce. Il me sourit aussi.
Il n'a pas l'air surpris de me voir. Que faites-vous ici ?
Je suis là tous les soirs, Aléa, comme toi. Et cela fait longtemps que je t'observe.
Il m'a observé ? Jar est tellement étrange. J'ai toujours l'impression que quelqu'un m'observe. Toutes ces pensées qui flottent, tous ces destins possibles qui se croisent. Longtemps ?
Depuis le début. Depuis que tu es venue à Saïmina. J'ai vu ton image, un peu floue d'abord. Tu ne parvenais pas à la contrôler, n'est-ce pas ? Ce jour-là, il y avait la louve.
Il connaît Imala.
Et il y avait l'image d'Erwan Aldaman aussi, le jeune magistel, le fils de Galiad. Tu as des sentiments pour celui-là.
On dirait qu'il se moque de moi, et pourtant je sais que ce n'est pas son intention. C'est le plus étrange de tous les grands druides, je l'avais déjà remarqué à Saïmina. M'espionne-t-il pour le compte du conseil ?
Mais il y avait la présence de Maol Morda aussi, tu te souviens ?
Il m'observe lui aussi, n'est-ce pas ?
Bien sûr, mais pas en ce moment. Je ne sais pas ce qu'il fait, il est absent. À vrai dire, ce n'est pas forcément rassurant.
C'est vrai, je ne sens plus sa présence, mais je sais qu'il est sur ma route. Maol Morda, tout au bout de ma route. Vous m'observez pour le conseil ?
Je t'observe depuis longtemps et le conseil vient seulement d'apprendre que je peux entrer dans le monde de Jar. Je leur ai dit que je t'y avais vu, mais ils ne sauront rien de plus.
Et s'ils mentaient ?
Je pense comme Félim, tu sais, Aléa. Je pense que tu es le Samil Danak. Je le sais. Et comme lui, je voudrais te protéger du conseil.
Mais vous faites partie du conseil.
Cela ne veut pas dire que je suis toujours d'accord avec ses décisions. Je suis un enfant de la Moïra.
Je ne suis pas sûre de comprendre ce qu'il veut dire. C'est le nom que l'on donne aux cheminants. Mais quel en est le sens en vérité ? Félim est mort. Il était le seul à vouloir me protéger, mais il est mort.
Je sais. Les trois druides qui te cherchaient sont revenus au conseil. Ils nous ont appris la nouvelle. Mais Félim n'était pas le seul. Je pense comme lui. Et le jeune William, que nous appelons Fingin, est parti lui aussi. Il nous a quittés, hier.
Il est parti de Saïmina ?
Oui. Il te cherche.
Il me trouvera. J'ai besoin de lui. J'ai besoin d'apprendre.
Tu es drôle. C'est toi qui as des choses à nous apprendre. Tu es le Samil Danak, Aléa.
Comment viens-tu ici si les autres druides ne le peuvent pas ?
Il pourrait sans doute s'il passait moins de temps à intriguer et plus à travailler dans la voie du Saïman. Mais je ne suis pas le seul. Les deux renégats aussi viennent ici. Maol Morda et Samael. Tu dois te méfier de Samael. Il n'est pas loin de toi. Je ne sais pas où tu vas, ni ce que tu veux faire, mais Samael est près de toi.
Encore un qui me surveille ?
Non, je ne crois pas qu'il t'ait vu en ces lieux pour l'instant.
Comment savez-vous tout cela, Kiaran ?
Je viens souvent ici, plusieurs fois par jour. Je regarde tout, j'écoute tout. Mes frères me croient dans la lune, mais je suis là. La vérité d'ici trahit les mensonges d'ailleurs.
Comment puis-je vous faire confiance ?
Tu ne pourras jamais me faire confiance. Tu ne pourras plus jamais faire confiance à quiconque. Tu dois toujours rester sur tes gardes, Aléa.
Vous reverrai-je ?
Chaque fois que tu viendras ici, si tu le veux bien.
Je crois que j'aimerais cela, oui. Kieran a sûrement des choses à m'apprendre, mais je dois faire attention à ne pas trop lui en dire. Je ne dois pas l'informer contre mon gré. Soit. Je vous retrouverai tous les soirs, Kieran, mais vous devez me promettre de ne pas m'observer à mon insu quand je suis là et que ce n'est pas vous que je viens voir.
Te promettre ?
C'est vrai. Quelle valeur aurait sa promesse, puisqu'il vient de me dire que je ne dois plus faire confiance à personne ?
Je dois lui faire peur.
Si je surprends encore votre regard sans mon consentement, Kieran, je saurai vous le faire regretter.
Il ne répond pas. Je suis sûre qu'il m'a comprise.
À présent, je dois aller voir quelque chose, Kieran. Je suis heureuse que vous vous soyez manifestée. Felim me manque, et j'ai besoin de parler à un druide. Fingin ne suffira sûrement pas.
Je ne suffirai pas non plus, Aléa, mais je t'apprendrai tout ce que je sais.
Merci. Je me retourne. Je pars. Il ne me suit pas. Loin d'ici. Je dois me penser loin d'ici. Il faut que je trouve Erwan. La porte de Jar. Je peux la rejoindre. Elle est là. J'avance vers elle. Il est là-bas. Cette lumière, je la reconnais. J'y suis. Comme un puits bleu. Et tout en bas, Erwan. Va-t-il entendre mon message ? Va-t-il comprendre ? Il ne peut pas monter jusqu'ici. Il ne m'entendra pas clairement. Mais je dois lui dire. Je dois lui faire comprendre. Erwan. Erwan. Écoute-moi.
Les deux loups marchaient vers le nord, au creux d'une vallée étroite. Un petit torrent coulait à leur côté, sur un lit de pierre grise et plate. À droite, le flanc de la colline était dénudé. Il n'y avait plus un arbre debout, à peine quelques petits buissons noirs à ras du sol. C'était une terre brune, caillouteuse, et au milieu de la pente, un vieux muret de pierre superposé séparait en deux la côte cuivrée. À gauche, l'été avait épargné une forêt de conifères. Les plus bas, effeuillés, assombrissaient la vallée, tandis qu'au sommet, l'horizon se dessinait sur une rangée de cimes vertes. Devant, vers le nord, les deux flancs dessinaient une grande échancrure en premier plan, derrière laquelle on apercevait d'autres collines lointaines et le ciel bleu du mois d'août. Imala enjambait des troncs morts, éparpillés sur le sol, que la crue passée du cours d'eau avait sans doute emporté jusqu'ici. C'était un mélange de bois blanc, cassant, et de boue sèche, où l'on voyait les empreintes de pas récentes d'un troupeau de vaches. Le vallon serpentait entre les avancées des deux collines et s'enfonçait vers le nord, où la végétation se faisait plus dense. La louve s'arrêtait par moments pour boire dans le petit torrent. Le cours d'eau, bruyant, étouffait les sons alentour. On entendait juste l'écho des pierres qui glissaient sous les pieds des deux loups et les battements d'ailes des rapaces qui passaient au-dessus, à la recherche comme eux d'une proie. Imala n'avait encore jamais chassé avec le loup gris, mais elle savait qu'avec lui, elle pourrait s'attaquer à un plus gros gibier. Il la suivait de près, prêt à bondir. Il devait avoir faim lui aussi. Mais Imala ne voulait pas s'éloigner de sa trajectoire. Elle allait vers le nord, là où ses sens l'appelaient. Et c'était dans cette direction qu'elle devait trouver de quoi se nourrir. À mesure qu'ils avançaient dans le jour illuminé, la vallée devenait de moins en moins large. Les montagnes de Gordraka approchaient, elles remplissaient à présent tout l'horizon. Les deux loups marchaient à contre-courant dans le petit torrent qui rafraîchissait à chaque pas leurs pattes fatiguées. Progresser sur ce sol rocheux était beaucoup plus fatigant que les longues courses dans les étendues d'herbe des plaines méridionales, et la chaleur ne facilitait pas la marche. La langue pendante, les deux animaux courbaient l'échine sous le soleil de midi. Soudain, Imala aperçut un mouvement vers l'ouest, une ombre derrière les pins. Elle s'arrêta, oreille dressée, pattes avant tendues. Le loup gris derrière elle l'imita. Un souffle de vent s'engouffra dans la vallée. Les poils blancs d'Imala se dressèrent, La brise bourdonna à ses oreilles. Les cimes des arbres se balancèrent un instant, puis le vent disparut vers le sud. Plus rien ne bougeait que les reflets du soleil à la surface du torrent. Le chant des oiseaux lui-même s'était arrêté, comme s'ils avaient vu dans le regard de la louve qu'elle était aux aguets, prête à bondir. De nouveau, il y eut un mouvement dans l'obscurité des troncs dressés sur le flanc de la colline. Imala avança de quelques pas, sortit de l'eau fraîche du torrent et se coucha à plat ventre sur les pierres chaudes de la rive. Elle avait repéré sa proie, une biche cachée dans l'ombre de la forêt. Elle devait être jeune, le poil fauve sur le dos et le ventre blanc roussâtre. La tête haute, le pas vif, elle guettait le moindre bruit de l'autre côté des arbres. Sans doute avait-elle entendu quelque chose, mais elle n'avait pas encore vu les deux prédateurs qui la surveillaient à présent. Le grand loup gris se mit à trotter vers le nord. La chasse allait commencer. Il se préparait à couper la route de la biche qui prendrait sûrement la fuite quand elle verrait Imala approcher. Ses épaules balançaient prestement comme il clopinait en silence, le pas léger. Il remontait progressivement la pente, lançant par moments un regard derrière lui, vers la louve blanche ou vers l'ouest, là où la biche était apparue. De son côté, Imala se mit à ramper. Redescendant légèrement vers le sud-ouest, elle espérait surprendre la biche en arrivant par derrière. Mais le cervidé avait l'oreille fine. Au bruit de deux galets qui s'étaient cognés sous le pas pourtant agile de la louve, la biche fit volte-face. Aussitôt, elle vit Imala. Fourrure blanche sur fond de pierre grise, la louve se distinguait pourtant mal. Mais la biche ne perdit pas un instant. Dès qu'elle vit Imala qui se relevait, elle s'enfonça dans les bois à toute vitesse, suivie bientôt par son prédateur. Plus haut, le grand loup la vit déguerpir et courut lui aussi entre les troncs élevés des pins. La biche, dans son élément, était plus agile et plus rapide. Les loups lui coupaient la route pour la forcer à redescendre dans la vallée. Mais si elle sortait de la forêt, elle était perdue. Alors, pour éviter l'étau qui se refermait sur elle, la biche changeait brusquement de direction, dérapant sur la terre parsemée d'aiguilles de pins séchés. À mesure qu'ils avançaient dans la forêt, la pente devenait de plus en plus raide, et bientôt les deux loups se retrouvèrent côte à côte sur les traces du cervidé. La biche leur échappait. Imala ralentit le pas, essoufflé. Il fallait être patient. Leur proie ne pourrait courir ainsi très longtemps. Le loup continua de galoper sur quelques mètres, puis il se mit au pas à son tour. Imala s'arrêta un instant pour humer l'air devant elle. La biche avait disparu, mais elle n'était pas loin. On pouvait encore sentir sa présence. Vers le nord. La louve blanche se remit en route, longeant la pente, sans quitter des yeux la ligne d'arbres derrière laquelle avait disparu leur proie. Le grand loup gris continua, lui, de monter face à la pente. Ils marchèrent ainsi jusqu'à ce qu'ils se perdent de vue, et longtemps encore après cela. Imala sentait toujours l'odeur distincte de la biche apeurée. Elle se mit au trot, inclinant sa course progressivement pour se rabattre sur la trajectoire de l'animal qui ne devait plus être loin. Puis son trot devint galop, et Imala traversa tout un pan de la forêt, la tête basse, le ventre frôlant le sol, avant de ralentir de nouveau. La pente ici était plus forte, et les pins plus denses. Il y avait de plus en plus d'ombre autour d'elle, et de rares rayons de soleil perçaient entre les branches touffues des pins pour zébrer l'obscurité de la forêt comme une pluie éparse de lumière. Imala se mit au pas. Le parfum de la biche était tout proche. Il prenait lentement le dessus sur les senteurs vives des conifères. La louve se mit à plat ventre et plongea son regard entre les alignements de troncs. Soudain, elle vit passer la biche sous un ray de lumière, au milieu des arbres. Elle ne courait plus et cherchait partout autour d'elle l'empreinte de ses poursuivants. Quand la biche lui tourna le dos, Imala bondit. Elle pouvait cette fois profiter de la surprise et fila entre les pins comme une flèche. La biche sursauta et, dans la panique, partit au galop dans la mauvaise direction. Elle descendait vers le sud, vers la vallée, et elle se rapprochait sans le savoir du loup gris en contrebas. Imala obliqua sa trajectoire et courut aussi vite qu'elle put, se retrouvant bientôt à quelques enjambées à peine de sa proie. La pauvre bête entendait le souffle de la louve derrière elle et ses pas étaient de plus en plus affolés. Elle trébuchait par moments sur des branches cassées et elle n'osait plus maintenant changer de direction tellement son chasseur était proche. Imala vit alors le loup gris descendre comme une pierre roulant du haut d'un tertre, tout droit dans le sens de la pente. Il allait encore plus vite que la biche, et il fut sur elle en un instant. Le loup gris sauta de très loin vers le long cou de la biche, et celle-ci, surprise, s'étala sur le flanc gauche. Emportés par la vitesse, le loup et sa proie roulèrent sur le sol, dévalant la pente dans un nuage de feuilles et de poussière. Quand cette avalanche prit fin, la biche se débattit pour tenter de se dégager des crocs du loup, mais Imala bondit à son tour et acheva l'animal d'un seul coup de sa large mâchoire. Le loup gris maintint la biche contre le sol pendant quelques instants encore, secouant nerveusement la tête pour lui rompre la nuque. Mais la bête était déjà morte, et son sang coulait dans la terre noire de la forêt de pins. De mémoire de Sylve, il n'y eut jamais en l'île congrégation plus funeste que celle-là. Tous les veilleurs étaient réunis dans la grande cellule dérobée du palais de Shanka, avec les chefs des tribus de Gorgoun, les guerriers convertis et tous les ennemis jurés des druides, bannis, déserteurs, renégats. Il ne manquait aucun adepte. Tous avaient répondu à l'appel du maître. Ensemble, ils allaient se soulever contre le conseil et accomplir l'Unsin, la reconquête. C'était une salle souterraine, si longue et si obscure qu'on n'en voyait pas la fin. Quelques torches accrochées au mur et fixées sur des socles de bois éclairaient la pierre ocre des parois dans une danse de lumière dorée. On entendait un grondement lointain, comme venu du cœur de la terre. Mais aucun autre bruit ne venait déranger cette sinistre assemblée, si ce n'était les crépitations des flammes amplifiées par l'écho de la pièce. Maol morda, le visage lacéré de veines gonflées de sang par les flots contradictoires du Saïman et de la Riman, les yeux brûlants, se tenait debout devant un autel de pierre noire. Sa peau nécrosée apparaissait aux charnières de son armure de métal noir. À côté de lui, Ultan, celui qui avait jadis été son magistel. C'était un grand guerrier silencieux qui avait pendant de nombreuses années conçu une jalousie brutale envers Aïn Sultor, à qui le maître semblait porter plus d'attention. Mais maintenant que le prince des Érylim était mort, Ultan avait retrouvé sa place aux côtés de Maol Morda, et cette fois, il avait bien l'intention de prouver sa valeur. Les années de frustration l'avaient endurci, et il était prêt à tout pour prouver qu'il méritait sa charge. Almar Kaïn était arrivé la veille. Il venait à Shanka pour la première fois, et il essayait tant bien que mal de cacher sa peur. Ici, il n'était plus le boucher obèse de Saratea. Ici, il était un veilleur. Il était celui qui avait dénoncé Aléa. Et il s'imaginait que peut-être, un jour, cela lui vaudrait de gravir une marche dans la hiérarchie instaurée par le maître. S'asseoir un jour près de lui, peut-être. Devenir son conseiller. Être entendu, simplement. Oui, ici, il deviendrait quelqu'un. Il pourrait oublier la vie futile qu'on lui avait réservée dans son petit village du comté de Sar. Devenir quelqu'un, à n'importe quel prix. Un silence pesant avait envahi la cellule. Almar ne bougeait pas. Il osait à peine déplacer son regard, à peine respirer. Il imitait les autres veilleurs autour de lui. Il écoutait. Le maître était resté immobile depuis un bon moment, rassemblant en son sein Saïman et Ahriman, abominable fusion qui avait fait de lui la créature inhumaine qu'il était devenu. Le regard baissé, les mains croisées devant lui, il semblait être entré dans une transe profonde. Comme Almar, tous les membres de l'assemblée avaient le regard fixé sur l'autel. Nul ne pouvait quitter des yeux le cadavre décharné que l'on avait posé là et dont l'odeur infâme saturait l'atmosphère. Les quelques derniers morceaux de peau qui restaient sur son squelette putréfié avaient la couleur grise de la fange. Les deux orbites oculaires étaient vides. Dans le crâne, une profonde entaille. Derrière des côtes cassées, on devinait les restes putrides d'organes décomposés. Soudain, la température de la pièce se mit à chuter. Alors le visage de Maol Morda se redressa doucement. Ses yeux étaient deux torches rouges et ses mains deux brasiers ardents. Il leva les bras au-dessus de l'autel dans un geste magistral. Le halo de lumière au bout de ses doigts ne cessa de grandir.
Un murmure parcourut l'assistance, mais il fut vite couvert par le grondement sourd qui montait de l'autel. Le sol se mit à trembler. La lumière des torches a vacillé. Quelques fragments de pierre tombèrent du plafond et des murs, soulevant dans leur chute un peu de poussière. Les vibrations du sol se firent de plus en plus violentes, de plus en plus rapprochées. Le visage de Maol Morda se déforma dans une contorsion hideuse, puis un cri étourdissant surgit de sa gorge. Quand le bruit et les secousses devinrent presque insupportables, brusquement, il y eut une grande déflagration. La pièce fut submergée de fumée. Puis le grondement s'arrêta. Les tremblements du sol disparurent. Lentement, à la lumière des quelques torches que l'explosion n'avait pas soufflées, Almar vit réapparaître Maol Morda. Le boucher se frotta les yeux pour enlever les grains de poussière qui s'étaient introduits sous ses paupières. Il se dressa sur la pointe des pieds pour essayer de voir ce qui s'était passé. Le cadavre n'était plus sur l'autel. Celui-ci était brisé en deux. La pierre s'était fendue en son centre, comme foudroyée. Et le corps sans vie avait disparu. Almar entendit des chuchotements autour de lui. Il se passait quelque chose qu'il ne pouvait voir. Il tenta de se hisser encore un peu plus haut, mais il était trop petit. Il n'osait se déplacer, quitter son poste, et sa curiosité l'irritait. Pourtant, soudain, il vit ce qui faisait murmurer la foule des veilleurs et des gorgounes autour de lui. Bouche bée, il aperçut le squelette qui se relevait lentement au milieu de la poussière. Il avait bien sûr compris dès le début de la cérémonie que Maol Morda tentait de ramener ce cadavre à la vie. Mais le voir ainsi se tenir debout, tourner la tête, ouvrir la bouche, c'était une autre histoire. Ultan apparut derrière le squelette et posa une lourde cape noire sur ses épaules. Le mort-vivant se laissa faire. Il y avait une forme de noblesse dans son maintien, comme s'il s'agissait d'un roi que l'ancien magistère habillait. Le squelette fit volte-face. Passant ses mains derrière sa nuque, il ramena sur sa tête la capuche noire qui pendait derrière lui, si bien qu'on ne put plus voir une seule partie de son corps décomposé. Ce n'était plus qu'une haute silhouette dans un manteau sombre. Il se mit à genoux devant Maol Morda. Le maître baissa les yeux vers son nouveau disciple. Les flammes s'étaient éteintes au bout de ses doigts, mais son regard brillait d'un feu nouveau. Tous les membres de l'assemblée s'agenouillèrent à leur tour. Maol Morda s'avança vers la silhouette sombre accroupie devant lui et posa ses mains ensanglantées sur ses épaules. « Tu es Dermot Kahl et je suis ton maître.
Seigneur, je suis votre serviteur. »
répondit le mort-vivant d'une voix gutturale. Almar frissonna, ses mains tremblaient. Il se souvint du jour où Sultor était passé chez lui pour le questionner. C'était la même peur, la même terreur, celle qui labourait le ventre, celle qui donnait froid, et celle qui l'excitait à la fois.
« Je te confie les 12 armées de Gorgones, Kahl, pour que tu les mènes à la victoire. »
Maol Morda prit la chaîne qu'il avait autour de son cou. Au bout pendait un médaillon d'or, finement gravé de motifs étranges. C'était le sceau d'Aldis, le manite qui donnait à son possesseur le contrôle des Gorgones. Inclinant la tête vers l'avant, il retira lentement le bijou et le passa autour du cou de Dermot Kahl. Les yeux du mort-vivant semblèrent s'allumer d'un feu nouveau. Maol Morda releva la tête et s'adressa à la foule prosternée.
« Le temps de l'Unsin est venu! Les druides doivent tomber, et avec eux, le Samil Danak! Mes fils, nous allons sortir de l'ombre !»
Almar entendait battre son propre cœur. Il n'arrivait plus à discerner ce qui en lui était peur et ce qui était joie. Le charisme du maître l'envahissait totalement. Son esprit s'embrouillait, il était ivre du désir de vaincre. L'Unsin cognait déjà dans ses veines.
« Gorgone, voici Dermot Kahl, votre maître,
s'écria Maol Morda en tendant les bras vers les chefs de tribu.
Avec lui, vous devrez tout brûler sur votre passage, détruire ce que les druides ont construit, renverser le cours de la Moira, et surtout...
Sa poitrine se gonfla, la lueur dans ses yeux doubla d'intensité, et son corps tout entier sembla grandir au milieu des ombres.
Et surtout, je veux que vous éliminiez le Samil d'Anak, que vous tuiez cette abomination, que vous la brûliez vive.
Les gorgones poussèrent un cri inhumain, cri de guerre sans doute, dont l'écho se heurta plusieurs fois au mur du palais de Shanka.
Dermod, ramène-moi la bague. Je veux que tu tues cet enfant de tes propres mains et que tu me ramènes la bague. Après seulement viendra le tour des druides. Je sais que tu es impatient, Dermod, que tu es pressé de les anéantir. Mais l'enfant passe avant tout.
Je vous ramènerai la bague, seigneur.
Maol Morda tourna lentement la tête, posant un regard terrifiant sur ses fidèles. Puis il fit volte-face et disparut dans l'ombre de la pièce, suivi de près par Ultan et Dermod Kal. Les veilleurs, les gorgones, les bannis, tous se regardèrent les uns les autres sans parler. Et dans leurs yeux brillait la même lumière, la lumière de l'Unseen.